BFM Business. Good evening business. La grande interview, Edwige Chevriot.
Bonsoir à tous. Va-t-on vers un décrochage industriel de la France? Est-ce que c'est de nouveau la guerre économique entre les États-Unis et la France? On peut le craindre, le redouter lorsqu'on écoute les déclarations de Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'économie, le ministre de l'économie et des finances, et Thierry Breton, l'ancien ministre de l'économie et des finances, aujourd'hui commissaire européen. Patrick Koller, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le patron de Faurecia. Forvia depuis le rachat d'un autre équipementier allemand. Et là, on va en parler parce que c'est un rachat qui vous a coûté fort cher. Donc, on sait que la dette pèse un peu sur votre groupe. Mais vous êtes aujourd'hui le 7e équipementier mondial. Est-ce que vous ressentez ce risque de décrochage industriel?
Oui, bien sûr. L'écart sur le coût de l'énergie est entre 3 et 4 fois entre nous, Européens, les Américains et les Chinois. Et on a des inflations par ailleurs qui ne seront pas compensées. Les salaires aux États-Unis montent, mais aussi baissent, pas chez nous. Donc on a un écart réel de compétitivité qui est en train de s'accroître. Et puis il y a des aides aux États-Unis. Et il faudrait qu'il y ait une symétrie entre ces aides américaines qui favorisent l'industrie américaine par rapport à la nôtre.
Donc il y a un vrai risque. Vous avez combien d'usines en France?
On en a 13.
Oui. Est-ce que vous pourriez être... Il avait le projet de construire l'usine à Fézin, Olivier Andriès de Safran, qui a dit, écoutez, pour l'instant, non, et puis on est plutôt attiré par les États-Unis. Est-ce que vous conduisez la même réflexion?
Alors, bien sûr qu'on se pose la question. On vient de décider de s'implanter, par exemple, à Lyon pour Materiact, dont nous parlerons tout à l'heure. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les subventions françaises n'ont rien à voir avec les subventions polonaises, par exemple, ou de la Lettonie, puisqu'en fait, nous avons également parlé avec ce pays. Donc oui, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que on est en compétition mondiale. Nos constructeurs sont aussi en compétition.
Ben oui.
Et sur le territoire français, parce que je pense qu'on va voir les Chinois arriver bientôt. Et donc, il faut qu'on soit capable de tenir nos coups.
Est-ce que vous êtes, parce que je recevais Carlos Tavares, que vous connaissez bien, parce que, en l'occurrence, Faurecia appartenait avant au groupe PSA, qui maintenant est devenu Stellantis dans le cadre de sa fusion avec FCA. Il était quand même, tenait des propos extrêmement durs sur l'Europe, notamment avec la fin des moteurs thermiques, 2035. Est-ce que vous, il y a une forme de naïveté au niveau européen? Est-ce que vous le soutenez là-dedans?
Absolument.
Oui.
Carlos Tavares dit que nous avons mis la charrue avant les bœufs, et il a complètement raison. Une voiture, ça se définit en 5 ans. L'infrastructure de recharge, il faut entre 10 et 15 ans. Pour fabriquer de nouvelles capacités de production d'électricité, il faut 20 ans, 30 ans, si on parle d'extraction des métaux qui nous sont nécessaires pour la construction des batteries. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par la voiture via des réglementations qui sont très contraignantes. Alors on va le faire, et puis personne ne conteste la nécessité de réduire le CO2. Je pense que le climat est le challenge de l'humanité actuellement, donc il faut y aller. Mais attention à la vitesse de cette transformation.
C'est une forme de folie, d'inconscience, de manque de réalité, de dogmatisme.
De dogmatisme, certainement, et puis, oui, de manque de réalité. Si vous regardez les Chinois ont planifié leur leadership dans la partie électrique depuis 20 ans, 30 ans.
Ouais. Est-ce que vous avez peut-être entendu Thierry Breton qui disait peut-être on fera un point en 2025, en 2026 pour voir si c'est tenable ou pas, si justement on n'a pas été trop vite ou pas. Carlos Tavares dit maintenant c'est trop tard, nous ça y est, on est parti, on est lancé, on ne va pas s'arrêter de nouveau. Vous, en tant qu'équipementier, est-ce que vous dites la même chose?
Non, je ne dis pas la même chose. Je pense que 2026 est une date intéressante. Le problème, ce n'est pas d'arrêter de fabriquer, par exemple, des voitures électriques. Mmh. Mais sauf que si vous fabriquez des voitures électriques et que ces voitures ne trouvent pas de bornes de recharge, les gens ne les achèteront pas.
C'est clair.
Hein? Et donc, M. Tavares ne vendra pas ses voitures et moi, je ne vends pas les équipements qui vont dans ces voitures. Mmh. Hein? Donc, je pense que si on n'arrive pas à suivre du point de vue de l'infrastructure, du point de vue des coûts, parce qu'il faut que cette mobilité soit abordable, eh bien, il faudra s'en reparler.
Ouais. Coût d'énergie, vous disiez à l'instant, c'est sûr qu'il y a des subventions qui sont fort utiles en ce moment. Vous avez augmenté vos prix de combien chez Faurecia ?
Alors, depuis le début de l'inflation...
Donc, c'est l'intérieur des voitures, en fait.
Oui, hein. Oui. Alors, ce n'est pas que l'intérieur des voitures. Il y a l'électronique également qui a une inflation importante. Je dirais de l'ordre de 5%.
C'est tout ?
Oui.
Donc, vous avez réduit vos marges ?
Donc, on a des difficultés, on est encore en train de discuter avec les clients pour obtenir davantage de compensation des inflations, et on y travaille tous les jours, mais c'est l'ordre de grandeur, oui. Ouais.
Les salaires, vous les avez augmentés de combien chez vous, chez le Faurecia ?
Alors, pour un salaire moyen de 2000 euros, de plus de 6% sur cette année, et nous avons avancé nos négociations salariales en tout début janvier.
Et ce qui est intéressant, c'est que, je le disais, vous avez racheté. Donc c'était l'automne dernier, quasiment un an en fait. Hein. Ella, qui était un équipementier allemand. Mmh. Là, vous avez augmenté les salaires de combien en Allemagne ?
Alors, c'est IG Metall qui négocie en Allemagne.
Oui.
Donc, c'est pas terminé, la négociation n'est pas terminée.
Mais de l'ordre de...
On sera probablement au-dessus de l'augmentation que je viens de vous indiquer, parce que l'inflation en Allemagne est supérieure à celle de la France.
Ouais. Et est-ce que là-bas, le coût de l'énergie est aussi un problème aussi important, ou les 200 milliards qu'ils vont mettre sur la table, paraît-il qu'on peut faire la même chose si on en croit Thierry Breton, est-ce que c'est, pour vous, pour le coup, vous dites que c'est très attrayant l'Allemagne ?
L'Allemagne a exactement le même problème, un problème même supérieur, puisqu'en fait, l'Allemagne refuse le nucléaire. Mmh. Donc, ils sont obligés actuellement d'avoir recours à de l'énergie produite à partir de charbon, avec tout ce que ça comporte. Donc, je crois que les industriels allemands sont très inquiets de la situation et de la façon dont elle va évoluer.
Oui, mais il y a un plan de 200 milliards d'euros qui se profile.
Il y a un plan qui a été annoncé de 200 milliards, mais qui n'est pas encore déployé et dont on ne sait pas encore comment il va fonctionner.
Ouais. Patrick Keller, est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez le contexte, vous voyez les actions des banques centrales, les hausses des taux d'intérêt, vous ne vous dites pas j'ai été trop gourmand, en fait, et de racheter pour plus de 5 milliards 300 millions le groupe allemand est là. Certes, vous êtes aujourd'hui le 7e équipementier, mais ça vous coûte très cher et l'équation est compliquée. On l'a vu, ça vous a valu quelques chahuts boursiers depuis l'annonce de votre plan stratégique en fin de semaine.
Alors, très clairement, si je devais le refaire, je le referais.
Oui.
Parce que Ella nous donne une taille, en particulier dans l'électronique et toute la partie algorithmique, qui nous est indispensable pour poursuivre notre croissance rentable. On est maintenant parfaitement aligné avec les macro-tendances de croissance de l'automobile. La dette est un problème actuellement parce que dans une phase d'incertitude, les marchés financiers n'aiment pas la dette. Mais nous gérons cette dette et nous avons un plan, et nous l'avons d'ailleurs annoncé dans le cadre de Power 25, nous avons un plan pour ramener le ratio de net dette sur EBITDA à moins de 1,5 fois.
Oui, là, vous avez l'endettement de plus du milliard.
C'est ça, et on va donc 8,4 milliards, ouais. Et notre intention, c'est de descendre à 6 milliards.
Oui, mais vous avez, en attendant, vous avez pris encore une hausse de 75 points de base il y a encore quelques jours, avant aussi, donc il y a une hausse très forte des taux d'intérêt.
Alors, oui, mais en même temps, pour nous, la charge de la dette restera quasi constante, parce que d'abord, nous sommes beaucoup en taux fixe, hein, nous avons géré ça plutôt correctement, et puis comme notre endettement baisse, notre charge financière, même si elle augmentera parce que nous aurons des maturités à renouveler, restera à un niveau tout à fait acceptable compte tenu de la taille du groupe. Nous ferons 30 milliards de chiffre d'affaires en 2025.
Donc c'est une progression quand même très considérable, mais qui est due à Ella, notamment.
Qui n'est pas que due à Ella, parce qu'en fait on a de la croissance dans les deux groupes. Et cette croissance va nous permettre, entre le deuxième semestre de 2022 jusqu'en 2025, de générer plus de 2,5 milliards de liquidités, de cash.
Et donc, vous allez restaurer votre situation financière à la fin 2025.
On la restaurera bien avant. Hein. On va commencer.
Il n'y a pas de dividende pendant deux ans, hein, quand même.
Il n'y a pas de dividende sur l'année 2022.
Oui. Hein,
payé en 2023. Mais il y aura des dividendes à partir du moment où nous générons le cash que nous avons prévu et que nous avons annoncé.
Et donc ça sera en 2023.
Absolument.
Oui. La restauration des marges.
Alors, la restauration des marges, c'est deux choses. Hein. C'est la compensation de l'inflation d'un côté, donc c'est la partie marge sur coût variable, et puis c'est des frais fixes. Et ce que nous faisons, nous travaillons intensément et en permanence à la réduction du point mort. Parce que dans cette incertitude, il faut être vigilant, il faut être agile et il faut être réactif.
Alors, vous avez annoncé chez Faurecia et chez Elat, vous allez nous préciser, hein, du reste, chez Forvia, en tous les cas, un milliard grosso modo de cessions.
Oui.
Ouais. Où par clic, voilà, il y en a une que vous allez bientôt annoncer, donc c'est le moment peut-être de nous le dire.
Non, nous ne sommes pas prêts pour l'annoncer.
Pourquoi ?
On a plus d'un milliard.
Vous avez bouclé ?
On est en discussion et on sera en mesure de l'annoncer d'ici la fin de cette année certainement. On a plus d'un milliard de cessions. Ce sont des cessions correspondant à des activités qui ne sont pas stratégiques pour le groupe. Donc, quelle que soit en fait la situation du groupe,
qui n'est pas stratégique.
Il y a des activités sur lesquelles on est petit. On n'a aucune chance d'arriver à une situation de leader sur le marché. Donc, on n'a pas la capacité de se développer. Ou alors, ce sont des activités qui vont nécessiter des investissements très importants pour un retour sur investissement qui sera relativement faible et qui ne correspond pas à nos core business, à nos activités principales. Et donc, on aurait cédé ces activités, quelle que soit la situation.
Ouais.
Donc, et c'est normal quand on a...
Donc,
quand on fait
plus d'un milliard, ça quoi ? Vous vous basez sur quoi ? On n'était pas... C'est 1 milliard, 1 milliard 4, 1 milliard 3, je ne sais
non,
pas.
Non, 1 milliard, c'est 1 milliard.
Tout compris.
C'est 1 milliard de cash in, donc ouais. c'est le fruit de la vente. Et ce milliard correspond à environ 1,7 milliard de chiffre d'affaires correspondant. Hein? C'est pour ça qu'on a parlé de 30 milliards en 2025, ce qui est un peu moins que ce que nous avions annoncé auparavant.
Et juste, on va rester un instant dans les côtés un peu techniques, pardonnez-nous, mais c'est important, tout ce qui est synergie justement dans le cadre du rapprochement avec le groupe ELA, vous les avez chiffrés à 250 millions d'euros, vous pouvez aller un peu plus loin, et où est-ce que se situe, est-ce que ça se fait sur le dos de la masse salariale, ça se fait où ces synergies ?
Non. Alors, 250 millions, c'est le minimum que nous avons annoncé, et on fera mieux.
On fera mieux.
Ouais. Si vous regardez la taille de l'entreprise de 150 millions, ce n'est pas extraordinaire.
Je rappelle 30 milliards, du moins c'est l'objectif. Hein. Là pour l'instant c'est 18, c'est l'objectif. Hein.
Non, ce n'est pas 18, ça sera 25 cette année ouais. et 30
alors,
milliards.
18 sur les premiers mois,
ouais.
pardon.
Ouais. Alors cette partie de 250 millions, elle se divise en deux parties principales. Une partie c'est les achats et c'est 50%. Et l'autre, ce sont d'autres éléments de frais fixes qui rentrent également en ligne de compte dans notre travail pour réduire le point mort.
Est-ce que vous produisiez, parce qu'on a découvert avec cette guerre, hein, on a découvert qu'en fait l'Ukraine était un pays qui travaillait énormément pour l'industrie, notamment l'industrie allemande. Est-ce que vous travaillez beaucoup, peut-être travaillez encore sur la partie ouest de l'Ukraine ?
Non, alors nous n'avions aucune activité industrielle en Ukraine. Les activités de l'Ukraine étaient souvent des activités de valeur ajoutée à cause du coût de la main-d'œuvre qui était faible. Donc c'est surtout du câblage.
Oui, du harnais pour les moteurs, pour BMW. Le patron de BMW nous l'avait expliqué ici. Mais
exactement.
Donc pas pour vous.
Pas pour nous.
Vous pourriez ouvrir une autre usine ou pas en France ?
Tout dépendra. Alors d'abord, il faut que la valeur ajoutée soit relativement faible. C'est vrai qu'il faut que ce soit une usine très fortement automatisée. Ça, c'est un premier point. Il faut que le coût de l'énergie soit compétitif. Et en Europe, la France a tous les atouts pour rendre son coût compétitif. Et il faut aussi que l'État, que les autorités locales nous aident, comme c'est le cas dans d'autres pays d'Europe.
Oui. Si je vous pose la question, parce qu'évidemment, ça dépend, le point clé pour vous, c'est la production d'automobiles, de véhicules. Quelles sont vos prévisions sur les deux prochaines années et sur la fin de l'année?
Oui. Alors, notre prévision pour l'année prochaine est relativement conservatrice, puisqu'en fait, on considère à peu près le même volume que cette année. Ça veut dire que nous considérons que le risque...
Quel chiffre, c'est 80...
Aux alentours de 81 oui. millions de véhicules. Oui. Alors, on considère que l'Europe est à risque. C'est là où se situe le risque le plus important. On pense que l'Amérique du Nord sera probablement stable et on conservera une croissance, même faible, en Asie.
Et c'est ce qui va vous permettre, vous pensez, de...
Alors ensuite, je pense qu'on ne reviendra pas au volume européen pré-crise de 90 millions. Ça, je crois que c'est... Enfin, de 90 millions globalement, mais de 19 millions en Europe. On va probablement se situer aux alentours de 17 millions.
Alors, il y a un point très important, surtout en ce moment, on parle de la COP27. Tiens, on pourrait se passer de plastique dans les voitures? Non, c'est impensable.
Oui, mais et pourquoi? Pourquoi ouais. se passer de plastique?
Je ne sais pas, parce que tout le monde dit, voilà, le plastique est l'horreur, il faut, faut supprimer le plastique. Donc, sinon, on va vers un suicide collectif. Ce n'est pas moi qui le dis, évidemment.
Non. Alors d'abord, il y a des plastiques qui sont issus de la biomasse, biosourcés. Non, pas recyclés. Donc il y a la partie recyclée, mais il y a aussi toute la partie biomasse. Donc, moi, je pense... D'abord qu'il faut y aller, il y a aucun doute là-dessus.
Il faut aller où ?
Il faut absolument diminuer le CO2 dans nos entreprises et dans nos productions. C'est un must absolu, notre climat en dépend. Donc il faut le faire. Mais en même temps, je pense qu'on peut parfaitement associer économie et écologie. Et je vous donne un exemple.
Oui, parce qu'il y a des belles déclarations. Là, en ce moment, à Sharm el-Cheikh, il y a beaucoup de belles déclarations, mais il y en avait eu quelques-unes autres avant.
Ouais. Mais on a commencé à travailler sur ce qu'on appelle le scope 1 et le scope 2, c'est-à-dire l'utilisation de l'énergie dans nos usines ou dans nos sites. Ouais. Eh bien, faire des économies d'énergie, c'est pas mauvais pour le portefeuille. Et nous allons être capables de faire 25% d'économies l'année prochaine par rapport à l'année de référence 2021. Et nous irons à 30% l'année suivante. C'est très important.
Oui, c'est énorme.
De la même manière, on produit nous-mêmes une partie de l'électricité. Et cette électricité, donc, n'est plus sujette au marché, aux fluctuations du marché. Elle est davantage basée sur un retour sur investissement. Donc il y a vraiment des possibilités, il y a des opportunités très importantes de considérer des matériaux différents, de les transformer de façon différente et de façon abordable pour le consommateur.
Donc, le plastique, on peut très bien, parce que c'est très important pour le poids de la voiture, donc pour la batterie, donc, et puis même aussi pour l'élasticité en cas d'accident. Donc, le plastique reste, notamment pour Faurecia, un matériau crucial.
Absolument.
Oui, d'accord.
Et ce que nous faisons dans Materia Act, qui est une société que nous avons créée...
Alors, c'est pour ça que j'y venais. C'était l'autre annonce que vous avez, il y avait votre plan Power 25, et là, il y a Materia Act, qui était une initiative, on peut dire quoi?
C'est une activité, c'est une vraie activité qui doit générer 2 milliards de chiffre d'affaires en 2030.
2030, on a encore un petit peu de temps.
Oui, mais ça va vite, de 2030, si vous regardez les cycles automobiles, c'est très rapide. En fait, ce que l'on fait, c'est que l'on va mélanger de la matière vierge avec de la matière recyclée et aussi avec de la matière biosourcée. Mmh. Mais ce faisant, on augmente la variabilité de cette matière, parce qu'on ne sait pas très bien d'où elle vient et ses caractéristiques ne sont pas aussi stables et aussi définies que quand on utilise la matière vierge.
Oui, mais quelle matière, quel type de matériaux?
Polypropylène, par exemple.
Qui sert à fabriquer quoi?
Qui servent à fabriquer la plupart des surfaces de l'intérieur de la voiture.
D'accord.
Et donc cette augmentation de variabilité, on la compense par une diminution de la variabilité process, donc transformation.
Voilà, c'est compliqué là, il faut nous dire ça, faut être pédagogique quand même là.
Non, mais c'est une légitimité industrielle de
mais
transformer.
Mais concrètement, donnez-nous un exemple concret.
Un exemple concret, c'est dès 2025, 30% de recyclés dans les habitacles que nous fabriquons.
Là, je comprends.
C'est aussi être capable, par exemple, d'injecter des pièces au minimum de la tolérance. Ça veut dire qu'elles sont plus légères et donc qu'il y a moins de matière. Ça veut dire aussi des matières qui sont plus durables et que l'on peut recycler par ailleurs. Donc c'est toutes ces chaînes et également toute la partie économie circulaire qui est en train de s'engager très fortement dans l'automobile.
Allez, on va se faire plaisir un instant, si vous voulez bien, Patrick Collère, en conclusion. Quels sont les produits, les nouveautés pour les voitures à venir que vous sortez chez vous ?
Alors, d'abord un éclairage qui est un éclairage de matrice LED et qui permet donc de distribuer la lumière exactement comme on le souhaite pour éviter d'éblouir, mais aussi pour éventuellement projeter des messages sur la route, hein, ce qui est tout à fait intéressant, ou d'avoir des alignements par exemple pour savoir si vous allez pouvoir passer entre deux camions en ville. Donc, ça c'est une partie. Il va y avoir des face avant qui seront animés, en particulier pour les voitures électriques, qui n'ont plus de grille de refroidissement à l'avant, donc avec des signatures différentes, avec des projecteurs très très fins, avec des nouveaux designs, et puis toute la partie électronique et software, qui va transformer complètement l'expérience utilisateur.
Ouais. La voiture autonome, c'est pour quand ?
Pas pour tout de suite. Alors, je ne crois pas à la voiture autonome, pour des questions de coût, tout simplement. Ouais. Et puis, je ne suis pas sûr que les gens veulent absolument une voiture qui roule toute seule, tout le temps.
Je vous le confirme. Gis, vous travaillez beaucoup pour les Chinois ou pas du tout ?
Bien sûr, oui, on travaille beaucoup pour les Chinois.
Ouais. Les Chinois
ils représentent 25% de notre chiffre d'affaires.
Ouais.
Et les Chinois, il faut s'attendre à ça, vont débarquer. Ils sont capables.
Au mondial de l'automobile, c'est sûr qu'on se disait qu'ils étaient déjà là, quoi.
Oui, et on parlait tout à l'heure de Carlos Tavares, il le dit aussi. Ils sont capables de fabriquer des petites voitures électriques pour environ 10 000 euros de moins que nous.
Et pourquoi ?
Tout simplement parce que le coût de l'énergie est beaucoup plus bas, que 90% des métaux nécessaires sont raffinés en Chine. Et qu'ils ont pris une très grosse longueur d'avance sur la fabrication des principaux composants.
Un mot pour conclure, peut-être pour rassurer les marchés, parce que là, vous avez été un peu, je le disais, secoué, même si ça va mieux. Là. Aujourd'hui, c'était plutôt une bonne journée, parce que vous veniez nous voir, évidemment, sur BFM Business. Mais un mot pour les rassurer ?
Bien, écoutez, on a lancé une opération, une obligation 400
millions.
Verte.
Ouais.
Vous verrez, je crois que le marché sera satisfait du résultat qui sera publié demain matin.
D'accord, mais ça, il est fermé, donc vous pouvez nous dire.
Non, je ne peux pas encore. Demain matin, vous allez voir
ce que... Elle a été placée à quelle hauteur ?
Elle est placée à hauteur significativement supérieure à celle que nous avons annoncée.
Voilà, comme ça, on a la réponse. Et vous aviez annoncé quoi, là, juste parce que...
On avait annoncé 400 millions.
D'accord. Hein,
et on sera largement au-dessus.
Largement au-dessus. Merci beaucoup.
Et en une journée, ce qui est pas mal. Hein,
oui, absolument. En une journée, dès ce matin. Merci beaucoup.
Merci
d'avoir
beaucoup
été avec
vous.
Nous. Patrick Collère, donc, qui dit attention, la concurrence, elle est rude entre les pays. Attention à l'inflation, coût de l'énergie. Mais plutôt optimiste, du moins pour son entreprise. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de grande interview. On se retrouve évidemment demain. Et tout de suite, Tech & Co. avec François Sorel et Frédéric Simotel. À tout de suite.
Good evening business. La grande interview.